Bonsoir à chacun. J'aimerais qu'on ouvre la parole dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28. Je lis « Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas. » On s'arrête ici. Ce soir, j'aimerais mettre en lumière la réaction qu'on a quand on appartient ou non à Dieu. Ici, on a un simple exemple où, devant une révélation qui vient du ciel, on a des gardes qui étaient censés garder le sépulcre où Jésus était, qui sont pétrifiés, littéralement, tellement ils ont peur. Telle la phrase dit, les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Et pourtant, on voit un peu plus loin que ce n'est pas le cas des femmes, parce que l'ange leur parle et leur dit « Ne craignez pas ». On a un autre verset dans l'évangile de Jean, au chapitre 20. La première parole que Jésus a dit à ses disciples quand il leur est apparu, Jean, chapitre 20, verset 19, je lis « Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Jésus les invite à ne pas avoir peur et les disciples, du coup, sont rassurés malgré le fait qu'un homme vient de leur apparaître littéralement sous les yeux. Quand on est normalement constitué, ce genre de choses ne nous met pas dans de conditions qui soient des plus agréables. Forcément, quand on est face à des choses pareilles, on ressent quelque part de la peur, c'est obligé. Les disciples, cette parole a suffi pour les rassurer. Un autre exemple, là dans l'autre sens, on peut aller voir dans le livre de Daniel, où on a un exemple aussi de quelqu'un qui se retrouve face à une révélation. Daniel, chapitre 5, je lis, « Le roi Belshazzar donna un grand festin assez grand au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter des vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Voilà comment on va vivre le roi de cette main qui écrit sur le mur. On a là affaire à quelqu'un qui s'est amusé avec les choses de Dieu. On a affaire à quelqu'un qui a piétiné les choses de Dieu alors qu'il avait connu du temps de son père la chute de son père, la folie de son père, et qui a connu le rétablissement de son père. Il a vu littéralement Dieu à l'œuvre dans la vie de son père. Et il ne trouve rien de mieux à faire que de faire la fête et en plus de se moquer de Dieu. On en voit toute la peur qui en résulte chez cet homme. Alors qu'est-ce qu'on remarque dans tous ces passages que j'ai lus? C'est que finalement, la peur dont on peut avoir de Dieu, il y a comme quelque chose de proportionnel, vous voyez, en fonction de ce qu'on a vécu sur la terre. Et je me suis posé la question, finalement, de la peur. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi on a peur? La peur, c'est une conséquence du péché et c'est une angoisse de l'homme. devant un danger réel ou supposé. Le danger n'est pas forcément réel. Alors, en réfléchissant à ce sujet, je me suis dit sur quoi on pourrait partir pour parler de ça. Et je me suis dit que finalement, il y a un sujet qu'on connaît tous très bien, c'est nos enfants. Je ne sais pas si vous avez regardé les enfants, si vous regardez les enfants. À quel âge un enfant a peur pour la première fois? Vous savez ça? J'en sais rien, mais moi j'ai vu qu'aux alentours de 9 mois, les enfants aient commencé à avoir peur des visages inconnus. Après, quand ils grandissent, quand ils sont en bas âge, ils ont des peurs aussi. Ils ont la peur des animaux, alors des chiens. Je sais que moi j'ai des enfants qui ont peur des chiens, des insectes, des araignées. Il y en a qui ont peur de bruit, il y en a qui ont peur de l'orage. Les enfants ont peur de l'orage. Et quand il y a de l'orage, ils ne peuvent s'empêcher de venir. Il faut qu'ils trouvent une consolation quelque part. Et le problème, c'est que ce n'est pas toujours facile. Certains ont peur du changement. Certains ont peur d'être seuls. Vous avez tous entendu l'histoire d'un enfant perdu dans le supermarché. Qu'est-ce qu'il fait? Il pleure tout ce qu'il peut. Pourquoi? Parce qu'il a perdu ses parents. Qu'est-ce que fait un enfant quand il a peur? Il pleure. Et il a un comportement qui est induit par la peur qu'il a. C'est très important à comprendre parce que ce que j'explique là est un parallèle avec le comportement humain en général. Le comportement que nous avons peut découler des peurs que nous avons. L'enfant qui pleure, il exprime sa souffrance comme il peut, à sa manière. Certains, ils ont tellement peur qu'ils deviennent violents. Certains ont tellement peur qu'il faut qu'ils frappent. Il y en a qui ont tellement peur qu'ils crient, qu'ils deviennent hystériques. Parce que c'est la peur qui les tient. Mais en général, qu'a besoin un enfant pour être consolé de sa peur? Son papa et sa maman. Et derrière cet enseignement tout simple, je crois qu'il y a quelque chose de très très profond qui peut expliquer beaucoup de choses sur la réalité de ce que vivent les hommes et les femmes aujourd'hui sur la terre. Un homme a besoin, au même titre qu'un enfant, a besoin de se sentir rassuré. Un homme ou une femme a besoin de se sentir en sécurité. A besoin de se sentir en paix. Parce que quand il n'y a pas la paix, il y a la peur. Je pense que c'est automatique. Si j'ai pas la paix, c'est parce que j'ai la peur. Que ce soit sous la forme d'une inquiétude, d'une anxiété ou autre, mais si j'ai pas la peur, j'ai la paix. Maintenant, comment nous, on peut exprimer nos peurs? J'ai remarqué, je parlais des chiens tout à l'heure, vous avez déjà regardé les chiens, comment ils se comportent les uns avec les autres? Quels sont les animaux les plus agressifs chez les chiens? Souvent, c'est les petits. Pourquoi? Parce que ce sont ceux-là qui ont peur. En général, les gros chiens, ils sont tranquilles. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on a peur, on a un comportement qui est lié à la peur que nous avons. Et si ma peur est grande, je vais avoir un comportement lié qui va être grand. Si j'ai une petite peur, alors je vais avoir un comportement qui est lié à cette petite peur. Comment se traduit la peur? La peur se traduit par l'agressivité. La peur peut se traduire par de la violence à nouveau. Un mari qui bat sa femme, c'est triste à dire, mais c'est des situations qui existent. Est-ce que c'est pas parce qu'il a peur que sa femme le quitte, par exemple? C'est un exemple. Mais quelque part, des comportements violents, je dis pas qu'ils sont tous pour cette raison, mais l'agressivité peut découler de la peur que j'ai. Je suis dans la peur face à quelque chose, face à quelqu'un, je deviens agressif par mes paroles, par mes comportements, parce que moi-même je suis dans la peur. Quand on a très peur, on en vient à délirer. Je me rappelle, quand j'étais plus jeune, j'avais dû avoir une grosse grippe et j'avais 39 ou 40 degrés. J'étais dans mon lit et je me rappelle parce que je revois ma maman qui essaye de me consoler et me dire « Mais non, ton armoire ne te tombe pas dessus !» Et je croyais que j'avais, je sais pas, je devais avoir la tête qui tournait, mais on en vient à délirer complètement. Et pourquoi je dis ça? Parce que la peur qu'on a nous fait croire aussi des fois certaines choses qui sont fausses, mais complètement fausses. Et devant ce comportement-là, où on est vraiment dans la peur, on en arrive à faire de grosses bêtises. Quelqu'un qui est en état de choc, est-ce que c'est une condition, je fais appel au médecin peut-être, mais est-ce que quelqu'un qui est en état de choc est en mesure de prendre de bonnes décisions? Est-ce que quand on est en état de choc, on est en mesure de prendre des décisions sages et réfléchies? Non, c'est impossible. Pourquoi? Parce que notre corps est dirigé par l'instinct de survie. Et quand on est en train de survivre, alors on fait au plus vite et au plus simple. Quand on est amoureux, par exemple, on est en état de choc. Je ne sais pas si vous le saviez. On est en état de choc. On est en état de choc amoureux. Et c'est pour cela, c'est une parenthèse, c'est pour cela que la Bible nous enseigne d'attendre. Parce que quand l'état de choc est passé, alors on est en mesure d'avoir une réflexion juste, une réflexion plus intelligente. Parce que quand on est sous l'état de choc de l'amour, on en arrive à prendre de mauvaises décisions, on y voit plus clair, on est complètement aveugle sur les choses, exactement comme en état de choc quand on est dans un accident de voiture. C'est exactement pareil. Et c'est pour ça que la Bible nous invite à patienter, pour faire laisser passer cet état-là. Parce que ce n'est pas le bon état pour prendre la quelconque décision. En état de choc, ou quand on délire, on voit des choses qui sont fausses à la place, alors qu'on croit qu'elles sont vraies, on imagine, on prend des décisions qui ne sont pas bonnes. La peur est un état, et l'homme est dans un état de peur parce qu'il y a quelque chose qui fait que l'homme est orphelin. Comme cet enfant qui se promène dans le supermarché, qui pleure tout ce qu'il peut parce qu'il a perdu ses parents, l'humanité tout entière pleure parce qu'elle a perdu son père. Et selon les cas, selon les personnes, la peur s'exprime d'une manière ou d'une autre. Mais la peur, la séparation avec le père, fait que des comportements sont là et il y a ce problème sur la terre qui fait que on a peur. Savez-vous quand a eu lieu la première peur? C'est facile comme question. Genèse, chapitre 3. C'est la première peur. Genèse, chapitre 3, verset 10. On peut lire à partir du verset 9. Mais l'Éternel Dieu, j'insiste sur ce nom-là, l'Éternel Dieu, c'est le nom qui est donné à Dieu dans tout le processus de la création. C'était lui qui se promenait dans le jardin d'Éden. C'était lui qui pouvait discuter avec l'homme quand il était sans péché. Donc c'est Dieu dans toute sa sainteté, dans toute sa plénitude. Quand on voit l'Éternel Dieu, c'est très particulier. Et on voit que l'Éternel Dieu veut être avec l'homme. On a chanté tout à l'heure le nom d'Emmanuel. Dieu avec nous. C'est toujours été le désir de Dieu. Parce qu'il sait qu'on a besoin de lui pour être rassuré. Il sait qu'on a besoin de lui pour être en sécurité. Alors, l'homme a péché et se retrouve séparé de Dieu à cause du péché. Mais que fait Dieu? Il pose la question. Où es-tu? Il n'est pas en train de lui dire « Qu'est-ce que tu as fait ?» Il lui pose simplement la question « Mais où es-tu » Je ne serais pas très surpris même que la question devait être dite d'une manière très douce. Ce n'est pas écrit. Mais je pense que pour rétablir le contact avec l'homme, Dieu n'a pas utilisé sa grosse voix. Parce que Dieu veut rétablir le contact. Dieu a toujours voulu rétablir le contact avec l'homme qui s'est séparé de Dieu. C'est l'homme qui s'est séparé de Dieu. Et l'homme a toujours, et Dieu a toujours voulu rétablir le contact. Mais pour rétablir le contact avec quelqu'un, on n'utilise pas la grosse voix, on ne monte pas sur nos grands chevaux. C'est comme ça qu'on fait naturellement. Quand on cherche à rétablir un contact avec quelqu'un, une situation où il y a du pardon, etc., on y va doucement. Parce qu'on voudrait justement que ça reparte. Alors, on fait attention à la manière dont on s'exprime. Dieu a fait pareil, hein. La voix de Dieu devait être toujours aussi douce. « Où es-tu ?» Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Adam et Ève avaient eu la conscience qu'il fallait s'habiller. Je ne sais pas d'où, mais ils s'en étaient rendus compte. Et ils s'étaient rendus compte que c'était bien de s'habiller. Là, c'est un autre sujet sur la conscience, mais... On voit que quand ils ont péché, ils se sont rendus compte qu'ils avaient fait une faute vis-à-vis de Dieu et ils ont essayé de faire comme ils ont pu pour réparer ce qui était réparable. Ils ne pouvaient rien faire, évidemment. Mais on voit quoi ? On voit quoi ? C'est que le péché a entraîné de la peur. C'est le péché qui génère la peur. C'est le péché qui nous sépare de Dieu. Et l'homme qui est séparé de Dieu, il a peur, c'est obligé. Celui qui est séparé de Dieu ne peut vivre que dans la peur, que dans l'anxiété, que dans l'inquiétude, que dans le doute, dans les questions sans réponse. Au même titre qu'un enfant a besoin de ses parents pour se sentir bien, nous avons besoin de Dieu pour nous sentir bien. Nous avons besoin de notre Créateur parce que nous sommes faits pour avoir besoin de lui. Lui n'a pas besoin de nous, mais nous, oui. Et pourquoi Dieu veut rétablir le contact avec l'homme ? Pas pour son bien-être personnel, mais c'est pour le nôtre. Parce qu'il sait très bien que sans lui, on ne peut rien faire. Il sait très bien que sans lui, on sera toujours dans ses inquiétudes, dans cette anxiété-là, dans ces doutes-là. Le Seigneur, il nous a créés pour qu'on soit heureux. Le Seigneur nous a créés pour que nous puissions être dans la paix, pas pour que nous vivions en nous posant des questions sans cesse sur le lendemain, sur ce qu'il y aura dans des années, de savoir si oui ou non, tout va bien se passer pour moi. Non. On a la situation de l'homme qui a péché. Et on a les situations d'hommes qui s'enfoncent dans le péché. Et qui, eux, à l'image de ce roi Belshazzar, se retrouvent pas dans une peur, se retrouvent dans une frayeur, dans une terreur. Parce que plus il y a le péché, plus il y a une séparation grande. Plus j'agrandis la séparation avec Dieu, et plus je suis loin de Dieu, et plus j'ai peur. Je dirais, c'est simple comme bonjour. La profondeur de mes péchés m'éloigne de Dieu. Et un jour, on sera tous amenés à rendre compte à Dieu de ce qu'aura été notre vie sur la terre. Est-ce que tu as cherché Dieu ou est-ce que tu as voulu t'enfoncer dans tes péchés ? Un jour, si tu continues à t'enfoncer dans ton péché, ton sort sera hélas le même que celui de cet homme qui s'est retrouvé tout blême. Devant la main qui écrivait sur le mur, quelque chose d'ailleurs de pas réjouissant pour lui. Un jour, on devra rendre compte à Dieu. Nous vivons là, sur cette terre, et nous avons besoin, Dieu nous supplie, de faire la paix avec lui. Soyez réconciliés avec Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, je crois. Je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Mais là encore, il ne nous supplie pas pour lui-même. Il nous supplie pour nous, parce qu'il sait que si on est réconcilié avec Dieu, alors nos peurs s'envolent et la paix de Dieu vient. Ésaïe a écrit, « Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Vous serez consolés dans Jérusalem. » Dieu veut nous consoler comme une mère console son fils ou sa fille. Jésus parle et il dit « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes ? Et vous ne l'avez pas voulu. Le problème, c'est que l'homme refuse la protection de Dieu. L'homme refuse d'accepter son sort. L'homme refuse d'accepter le fait qu'il ait besoin de Dieu pour être dans la paix. L'homme veut se suffire à lui-même. Le diable lui fait croire que l'homme peut se suffire à lui-même. C'est un mensonge du diable. C'est un mensonge du diable parce qu'on a besoin d'être tranquillisé, on a besoin d'être rassuré, on a besoin d'être consolé, on a besoin d'être encouragé parce qu'on est comme ça. On est fait comme ça. Dieu seul sait comment nous sommes faits et Dieu seul sait de quoi nous avons besoin. Et Dieu avait tout prévu pour que nous puissions vivre pleinement heureux, dans une paix profonde avec lui. Mais l'homme l'a rejeté. Une fois de plus, c'est Dieu qui fait le premier pas. Avec Adam, il a posé la question, il a cherché à rétablir le contact. Mais il a fait bien plus que cela en la personne de Jésus-Christ. La Bible dit que Dieu prouve son amour envers nous en ce que, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Jésus a quitté sa gloire pour venir marcher comme un homme, dans la même dépendance que nous, à savoir une communion profonde avec le Père. Jésus était dans la paix. Il était dans une paix profonde. Même alors qu'il était en proie aux angoisses, comme quoi c'est pas impossible, Jésus était toujours dans la paix. La paix de Dieu ne l'a jamais quitté parce qu'il savait qu'il était dans la volonté de Dieu. Jésus n'avait jamais péché, du coup il n'y a jamais eu cette séparation là avec Dieu. Il est resté proche de lui et la paix de Dieu était toujours avec lui. Mais Jésus a marché, Jésus a appris par les souffrances qu'il a souffertes, il a grandi, il a été méprisé, il a été rejeté par les hommes, il a été insulté, il a été traité comme moins que rien, il a été considéré comme un criminel, on l'a fait souffrir, on l'a cloué sur une croix. Et voilà tout l'amour que Dieu fait pour rétablir le contact avec l'homme. Voilà tout ce que Dieu fait. Jésus a dit sur la croix que tout est accompli. Et par sa mort sur la croix, l'homme peut enfin être réconcilié avec Dieu. Ce péché qui est là, qui a été induit par la désobéissance, peut être ôté par celui qui croit que Jésus est mort pour lui. Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. » chargé, et je vous donnerai du repos. La volonté de Dieu n'a jamais changé à notre égard. Dieu a toujours voulu que nous soyons dans le repos. Est-ce que c'est normal si je ne suis pas dans le repos ? Non, parce que Dieu veut que j'y sois. Dieu veut que je puisse avoir la paix qui vient de lui. Dieu veut que je puisse avoir cette joie profonde de lui appartenir et vivre ma vie sans m'inquiéter. Parce que lui s'engage à prendre soin de moi. Ça, c'est la volonté de Dieu qui n'a jamais changé. C'est nous qui changeons. C'est nous qui nous éloignons. Et quand on met une distance entre nous et Dieu, la peur vient. Le péché qui est en moi fait que vis-à-vis de Dieu, je n'ai pas accès. Parce que le péché qui est en moi me prive de la gloire de Dieu. Le péché qui est en moi fait séparation. Le péché qui est en moi, dans ma nature, m'empêche d'avoir accès à la présence de Dieu. Donc Dieu ne peut pas venir me consoler tant que je suis pécheur. Dieu ne peut pas me donner la paix tant que je suis pécheur. Pourquoi ? Parce qu'il y a le péché entre les deux. Il est absolument nécessaire pour retrouver la paix. Pour que mes peurs s'envolent, que mes angoisses s'envolent, que mes inquiétudes s'envolent. Je peux le vivre, c'est possible. Mais il faut laisser mon péché à la croix du calvaire. C'est là où Jésus a tout vaincu, les dominations, les influences de ce monde. Jésus a tout vaincu à la croix. Le péché peut rester à la croix. Et moi, je peux être libéré du péché. Je peux être réconcilié avec Dieu. Le message que Jésus disait était le suivant, repentez-vous. Se repentir, c'est quoi? C'est reconnaître notre besoin de la grâce de Dieu. C'est reconnaître notre état de pécheur. Et de venir devant Dieu et de lui demander pardon pour notre péché. De venir honnêtement devant lui et lui demander sa grâce sur notre vie. Son secours sur notre vie. Reconnaissant là toute notre petitesse. Notre état de cœur qui n'est certainement pas propre. Dieu veut le purifier. C'est David qui écrit et qui dit « Lave-moi de mon péché, purifie-moi et je serai blanc comme mon cœur sera blanc comme la neige. » Par la croix, c'est possible. Jésus lui-même dit encore « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Il fait référence au jugement, comme je l'expliquais tout à l'heure. Dieu veut que nous puissions expérimenter la paix de Dieu. Et la mort, c'est terrible. Parce que la mort, c'est quoi? La mort, ça veut dire d'être séparé de Dieu. Si vous avez bien compris ce que je suis en train d'expliquer depuis le début, si je suis séparé de Dieu pour l'éternité, je serai en proie aux peurs, aux angoisses, aux frayeurs pour l'éternité. Ça fait frémir déjà, rien que d'y penser. Mais la mort éternelle, c'est de cela dont il s'agit. Et ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous ce soir. Dieu nous appelle à nous repentir une fois de plus. Pas parce qu'il nous veut à lui pour son confort personnel. Non, parce qu'il nous aime tellement que lui, son souhait, c'est que nous soyons bien. Son désir, c'est que nous soyons bien auprès de lui. Que nous soyons dans la paix auprès de lui. C'est une loi. Celui qui touche une plaque de four brûlante, il va se brûler. Celui qui est loin de Dieu vivra loin de Dieu pour l'éternité. Et celui qui fait l'effort de le chercher, alors, c'est une autre loi, pourra trouver Dieu. Celui qui est réconcilié avec Dieu, c'est comme cet enfant qui retrouve ses parents. Et cet enfant qui retrouve ses parents, quel soulagement! On en voit J'ai assisté une fois à une scène comme ça. L'enfant, il s'accroche à ses parents et il a compris la leçon. J'aimerais qu'on prenne le psaume 131. C'est le privilège du chrétien. C'est le privilège de celui qui a donné son cœur à Jésus. C'est le privilège de celui qui a compris qui il était et qui il n'était pas. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille. Comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et à jamais. J'ai envie de dire, là ce soir, chers amis, mettez votre espoir en l'Éternel dès maintenant et à jamais. Est-ce que tu veux être débarrassé? Est-ce que tu es dans cette situation où tu es sans arrêt à te faire du souci? Sans arrêt angoissé du lendemain? Est-ce qu'il y a même des peurs plus grandes que tu ne peux expliquer, mais qui sont là en toi? Alors viens à Dieu et réconcilie-toi avec lui. Parce que ces peurs-là, elles peuvent partir si tu donnes ton cœur au Seigneur. Parce que la paix de Dieu peut venir sur toi. À celui qui est ferme dans ses sentiments, parce qu'il s'agit d'une décision franche, nette. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. L'enfant de Dieu, comme un enfant qui a retrouvé ses parents, il a de nouveau ce privilège d'avoir le contact rétabli. Vous savez, moi, j'ai ma fille aînée. Elle a tendance à être anxieuse comme ça. Elle a peur du changement. Le moindre changement, ça... Mais vous savez, le soir, souvent, on se retrouve tous les deux. Et puis, elle me dit, papa, j'ai peur pour quand on va changer de maison. Mais il y a un partage, il y a une confiance, il y a un dialogue qui se fait. Et derrière, tout simplement, je la rassure. Je peux lui citer un passage biblique. Et puis, une fois que la discussion est passée, vous savez ce qu'elle me fait ? Elle me serre dans ses bras, puis elle me dit « Je t'aime, papa ». Puis après, elle s'endort. Et elle me dit « Bonne nuit ». Et puis, elle s'endort dans la paix. Ça, c'est l'image de ce que le chrétien peut vivre avec Dieu. C'est l'image de ce que Dieu veut que nous vivions journellement. Quand il est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » C'est exactement ce que je viens de vous expliquer. « La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Le jour où nous nous engageons à faire confiance au Seigneur, le jour où nous nous repentons de nos péchés, où nous acceptons le sacrifice de Jésus à la croix, alors, de notre juge, Dieu devient notre Père. Nous devenons des enfants de Dieu. Et par cette nouvelle relation qui est établie, Dieu s'engage par là même à protéger, à garder ses enfants. Si Dieu a eu tant d'amour pour nous alors que nous étions loin de lui, croyez-vous pas que alors que nous sommes près de lui, il n'aura pas encore plus d'amour pour nous? Vous croyez pas qu'alors que nous sommes auprès de lui en tant qu'enfants de Dieu, il n'aura pas de raison de s'inquiéter parce que il connaît toutes choses et qu'il nous aime? Avant, il nous aimait alors qu'on était loin. Maintenant, il nous aime encore plus parce que nous lui appartenons. Celui qui croit à ces choses et qui s'appuie sur les promesses de Dieu, il a la paix dans son cœur. Le Seigneur veut te donner la paix ce soir. J'aimerais qu'on se recueille quelques instants. À la place de tes peurs ou de tes angoisses, Dieu veut te donner sa paix ce soir. Seulement, il faut que tu la saisisses par la foi. Il faut que tu acceptes. Soit tu appartiens déjà au Seigneur et tu as juste à saisir par la foi les promesses de Dieu. Soit tu n'appartiens pas à Dieu encore. Et là, il te faut faire ce pas où tu demandes pardon au Seigneur. Tu réalises ton état. Tu réalises que tu as besoin de sa grâce. Et tu t'approches simplement devant Dieu. C'est une démarche de cœur. Si tu as cette démarche, que tu sois enfant de Dieu ou nouveau converti ou personne qui n'appartient pas encore à Dieu, tu pourras vivre cette parole-là. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Voilà le désir de Dieu pour ta vie. Dieu veut te consoler ce soir. Seigneur Jésus, nous voulons te rendre grâce, te dire merci, Seigneur, pour tout ton amour. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour tous ceux et celles qui ont entendu cette parole et qui ont besoin d'une victoire, qui ont besoin d'être réconciliés avec toi. Je te prie, Seigneur, pour que par le Saint-Esprit, des victoires soient remportées ce soir, Seigneur Jésus. Étends ta main, Seigneur, et fais grâce à tous ceux qui ont entendu ce message, Seigneur Jésus. Que les peurs s'envolent, que les angoisses s'envolent, et qu'à la place de la peur, la paix vienne faire sa place dans les cœurs, dans les vies. Je te remercie de tout mon cœur, Seigneur Jésus. Amen.